Alors, sur ces images du Canada, en direct de Montréal, c'est Tam Tam Canada. Ça sonne très canadien, cette émission. Hein? Alors, félicitations à notre équipe technique aujourd'hui. Encore une fois, on retrouve en studio Pierre-Luc Blais, Marc-André Deschamps et Pierre Dutille. Grâce à ces trois rois, nous allons pouvoir accueillir aujourd'hui notre reine de l'émission, Maryse Jobin. On l'applaudit.
Ils m'applaudissent parce que je suis la seule femme en ce moment.
Ouais.
Soit dans la régie technique ou ouais. Au studio. Alors voilà, on va donner le titre de reine.
Oh là, pour compenser. Le beau drapeau qui a passé devant l'écran. Est-ce que le drapeau peut repasser? Parce qu'on n'est pas sûr qu'on est à Radio-Canada International. Est-ce que le drapeau peut revenir? Oh, c'est beau! Hey, ça, c'est quelque chose. Une équipe technique fantastique. Hein?
Magnifique. Ouais.
Avec le bruit, en plus.
Oui, c'est ça, avec les effets sonores.
Oui, ouais. Hey, c'est quelque chose. Ça vient avec un effet sonore. Vous avez remarqué ça? C'est moi, ça me passait complètement... Bonjour, Marc Montgomery.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, cher collègue.
Bonjour, madame.
Bonjour, Marc.
Bienvenue à notre belle émission.
Marc, c'est pas votre émission, c'est... mais bienvenue quand même à notre émission. Vous êtes de la section anglaise de Radio-Canada.
Effectivement.
International, il faut le préciser. Écoutez, on a entendu à votre émission, il y a une heure, un extrait d'un débat en politicien. C'était en direct à Montréal hier soir, les élections fédérales, bien sûr. Ils étaient six sur le plateau et vous aviez la traduction simultanée en anglais. C'était quelque chose, il fallait le faire. Hein? C'était complètement hallucinant.
Bien, surtout quand ils parlaient les uns sur les autres et les traducteurs ont fait la même chose. Parler de traduction sur une traduction, c'était incompréhensible.
Ouais. Alors écoutez, on n'est pas ici pour parler de politique aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet beaucoup plus important. Écoutez, la politique mène le monde, mais le reste mène la vie. Voici le sujet de l'émission aujourd'hui. Vous allez le deviner ensemble grâce à ces cinq images et tout le monde à la maison, vous jouez le jeu avec nous. Vous n'avez pas le choix. Si vous êtes au bureau, vous avez le choix. Vous pouvez aller marcher, prendre une marche, je ne sais pas. Voici, on présente cette vidéo aux cinq images. Je vous promets que ça va être difficile de déterminer, de découvrir quel est le sujet aujourd'hui.
Êtes-vous sûr que ce sera difficile?
Je ne sais pas, mais on attend.
J'instille le doute, hein, parce que Stéphane est très bon là-dedans.
Ouais, on regarde ça ensemble. Première image. Ça, c'est sympathique comme image. Belle couleur.
Aide à l'international.
Ouais, ça pourrait être ça, aide internationale. Continuez. Voyons si vous êtes bien sur la bonne piste.
Coupure dans l'aide internationale qu'accorde le Canada à l'étranger.
Mon Dieu, vous êtes sur... C'est une vraie lancée. Est-ce que cette quatrième photo justifie votre opinion? Et cette cinquième?
Avec les sigles américains?
Oui, oui, oui.
Non, moi, je pense que c'est peut-être à Haïti.
Non, c'était... Non. Regardez, c'est là à l'écran. Aide internationale canadienne. Faut-il en priver certains pays?
Oui, parce qu'il y a un chef en ce moment qui croit qu'il faudrait réduire l'aide internationale.
Que des pays...
Ou en tout cas, la cibler de façon différente.
Ouais. Il dit, si votre indice de pauvreté n'est pas suffisamment bas, pourquoi recevriez-vous de l'argent du Canada? On peut nommer, là, par exemple, la Chine, qui a reçu de l'argent du Canada.
L'Italie?
Oui, dans le cas d'un tremblement de terre.
Exactement.
Ouais. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est une belle occasion pour nous, pour voir, bien sûr, ce chef conservateur qui promet de réduire de 25% l'aide canadienne humanitaire. C'est important d'en parler, mais aussi, c'est une occasion pour nous de voir où se situe le gouvernement libéral depuis son élection en 2015 dans cette fameuse question. Alors, j'ai pour vous, pour essayer de trouver la racine de cette réponse, on commence par le mot « action ». Il ne se produit rien en studio comme d'habitude. Grand plan, s'il vous plaît.
Non, mais Marc m'a battu parce que la semaine dernière, ça vous a pris deux actions pendant que je passe à la boule, quoi.
Ah ben, il va falloir que vous appreniez votre leçon, sinon on va être obligé de poursuivre
le
faire en cours.
C'est parce que la dernière fois, on a fait sauter le breaker, puis le studio, ça n'a pas de l'électricité.
C'est vrai. Avant d'aller en onde, on a fait sauter les plombs, grâce à ça. Incroyable, hein, l'énergie qu'on va aller chercher là avec ça. Première question, on l'affiche à l'écran.
OK.
On regarde ça ensemble. C'est en français, malheureusement, Marc. On pourra traduire en anglais simultanément, s'il le faut. Voici cette question. Voici. Quelle est la contribution de l'aide internationale canadienne comparée à nos revenus bruts? Hein, comparée à tous nos revenus, quelle proportion, quel pourcentage est-ce que l'on met de côté pour l'aide internationale? Est-ce que c'est A, 0,88%? Est-ce que c'est B?
88%?
Ouais. Est-ce que c'est... Ben non, pas lui. C'est pas 80... C'est 0,88%.
Point, oui, oui.
Okay. Soit. C'est ça. Est-ce que c'est B?
0,68.
Oui. Est-ce que c'est C? Continuez, vous êtes sur...
0,48.
Oui. Ou est-ce que c'est D?
0,28.
Point. Vous dites point en anglais. Nous, c'est virgule.
Ouais.
OK.
Moi, j'opte pour D.
Très bon choix. Moi aussi, je vais avec le même choix.
Ouais. Alors, c'était pas compliqué. Vous gardez vos 20 boules de ce premier jeu. Ah. Il y a 3 jeux à l'émission. Mais la grosse surprise, c'est que c'est les libéraux de Justin Trudeau qui ont donné dans l'ensemble moins d'argent en termes de pourcentage que le gouvernement conservateur précédent de Stephen Harper, qui, lui, avait été critiqué parce qu'on disait, bon, il enlève tout le soutien à l'international, tout cet intérêt du Canada pour les questions internationales. Il a décidé de commercialiser l'approche canadienne, de faire en sorte que le ministère du commerce international soit plus impliqué dans les décisions.
Oui, il s'appelait Affaires mondiales.
Oui, exactement. Ce ministère s'appelle toujours Affaires mondiales.
Je ne sais pas, il faudra demander à notre spécialiste.
Ouais, exactement. Donc, le nom est resté. L'argent est un petit peu pas au rendez-vous sous Trudeau. Genre, j'ai les chiffres ici. 0,28%, comme vous le disiez en anglais. Mmh. Et puis, avant ça, sous Stephen Harper, 0,3% ou 0,30%. Ah. D'accord?
Oui.
C'est ça. Écoutez, je vous montre une petite image comparative par pays de l'OCDE pour vous montrer une image. C'est une image vaut plusieurs mots, même en anglais. Arrêtez de faire des farces avec vous là-dessus. Voici l'aide publique au développement en 2018 en termes de revenu national brut. Le Canada, qui est loin à la traîne, par exemple, Royaume-Uni, l'Allemagne, et derrière la France, et mais en avance sur le Japon, une nation plus riche que nous, et en avance sur les États-Unis. Mais on va le voir un peu plus tard. C'est
mais ça, ce sont des pourcentages. Hein? Ce serait intéressant de voir si, en termes de chiffres ou de dollars absolus, si du côté des libéraux, on a moins donné que les conservateurs. Parce qu'on sait que les revenus bruts dans les 4 dernières années au Canada ont augmenté. Tandis que sur l'air Harper, on était en période de récession.
Bien, écoutez, tellement une belle question. C'est la première question pour notre invité aujourd'hui sur Skype, qui est avec nous, qui a bien accepté de jouer le jeu pour nous faire comprendre ce qui se passe du côté de l'aide internationale canadienne. François Audet, de l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Audet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voyez nos faces patibulaires?
Tout à fait, et la boule de lumière également. C'était impressionnant.
Ouais. C'est par le jeu qu'on informe. Vous êtes habitué évidemment à des étudiants un peu indisciplinés. Considérez-nous comme la meilleure de vos classes, d'accord?
D'accord.
Pas de problème. Écoutez, bonne question de Maryse. Dans le contexte, si vous pouvez replacer ça, ça nous aiderait beaucoup à essayer de comprendre ce qui se passe.
Oui. En fait, tout ça n'est pas simple et ça ne peut pas qu'être résumé que par des chiffres. Et de là, je crois, la conversation qu'on a aujourd'hui sur la proposition des conservateurs de couper l'aide de 25 y a quand même un consensus sur l'utilisation des pourcentages du PIB. Et des pourcentages du PIB nous permet de pouvoir comparer, je dirais, la richesse collective d'un pays et sa capacité de générosité à l'international. Donc, c'est sur cette base-là qu'on peut se comparer plus facilement, évidemment, parce que toutes les économies, puis vous l'avez bien dit avant que j'arrive, toutes les économies ne sont pas pareilles, ne vivent pas des mêmes cycles économiques au même moment non plus. Mais globalement, quand on regarde aussi au niveau historique, on est capable de pouvoir dire, bien, grosso modo, depuis 5-10 ans ou par période, quelle est la posture canadienne. Et je crois que ce que vous avez dit depuis le départ est bon. En fait, ce que vous avez dit depuis le départ est bon, c'est-à-dire que le Canada est un pays moyennement généreux. Et là, si on parle, et j'aime même pas mon propre terme, parce que je suis pas d'accord que le Canada, qu'on doit utiliser le terme généreux dans ce contexte-là. Je crois que le Canada a une responsabilité de partager sa richesse. Et un partage de richesses qui, en plus, il faut bien comprendre, n'est pas seulement au bénéfice des pays qui reçoivent cette aide-là, mais est au bénéfice du Canada. C'est aussi souvent le narratif libéral qui dit, ben, quand vous donnez de l'aide à un pays qui est pas stable, ben, l'amélioration de sa stabilité va permettre aux Canadiens d'avoir une meilleure posture et d'être plus organisé, d'avoir de meilleures opportunités, si vous voulez. Donc, grosso modo, et je résume ma pensée en quelques secondes, depuis 20 ans, l'aide canadienne est plus ou moins la même. On peut même se reporter à l'époque de Jean Chrétien. Les conservateurs avaient modifié certaines approches, mais avaient maintenu un peu quand même l'aide en termes de pourcentage. Et sous les libéraux, on avait porté le libellé de la politique d'aide féministe, mais il n'y avait pas de nouvelles sommes qui sont arrivées. malgré une économie croissante, on était quand même, on était dans une approche là, économique positive. Et c'est ce qui fait en sorte, effectivement, que le pourcentage, lui, a diminué dans la récente administration libérale.
Professeur Audet, on vient de montrer des images et on va les remontrer à l'instant de la ministre responsable de ce dossier-là, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, qui était avec nous lors d'une entrevue il y a une couple d'années où on parlait de la féminisation de l'aide internationale canadienne. On se disait, on a peut-être moins d'argent, mais peut-être on va agir de façon plus intelligente. Donc, au niveau des sommes, bon, ça se discute, il peut y avoir des débats, mais il y a aussi la façon dont on intervient comme pays. Et Andrew Scheer parle d'intervenir d'une autre façon. Parlons de celle qu'a voulu privilégier jusqu'à maintenant les libéraux. Puis Maryse a aussi une question par rapport à tout ça.
Oui, parce que tantôt, vous utilisiez le mot « généreux ». Est-ce qu'on devrait parler de parcimonie, mais choisie, selon les politiques du gouvernement au pouvoir?
Oui. En fait, l'aide internationale, déjà, l'aide, même le mot aider, pour moi, il est un peu maladroit. Je pense que l'aide internationale, parce qu'on garde quand même les termes, a toujours été à la couleur du ministre ou de la ministre responsable ou du parti responsable. L'aide est toujours intéressée et politisée. Et quand on commence à regarder en détail les projets, les pays qui reçoivent de l'aide canadienne, ben on peut jamais trouver une raison essentiellement humanitaire ou essentiellement altruiste. Il y a toujours des intérêts commerciaux, il y a toujours des intérêts politiques, des diasporas, il y a toujours des pressions des alliés, il y a toujours une raison politique qui va faire que le Canada va ou ne va pas donner de l'aide à un pays tiers, premièrement. Pour en revenir à la question sur ce que les libéraux ont fait avec notamment la politique d'aide féministe ces dernières années, je crois que c'était un choix judicieux. C'était une politique qui était féministe, donc le libellé en tant que tel était même extrêmement... Je dirais le mot moderne ou progressif, pas tant d'une perspective canadienne, parce que pour nous, il y a quand même certains acquis, mais quand on met en place cette politique-là, notamment pour des pays dans lesquels les enjeux d'égalité hommes-femmes sont centraux, voire même, évidemment, il y a des violations quotidiennes de la réalité des femmes, et aussi parce qu'on sait, ça c'est bien documenté scientifiquement, que le développement humain passe par les femmes, donc de libeller la politique féministe est extrêmement importante. Par contre, si on ne lui donne pas de coercitif, si on ne lui donne pas de moyens financiers, ben ça devient à ce moment-là qu'une politique et qu'un discours narratif. Et c'est malheureusement beaucoup ce qui est arrivé dans les dernières années. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent. Maintenant, c'est un peu mieux. C'est-à-dire que ça a pris du temps avant que les projets s'enracinent dans la politique d'aide féministe. Mais pendant les premières années, on était beaucoup plus dans un narratif et ça n'a pas changé grand-chose, entre guillemets. Mais là, maintenant, avec les années, la plupart des projets ont des obligations de s'assurer qu'il y a une analyse de genre et de s'assurer que les femmes soient non seulement considérées, mais les moteurs du développement humain derrière les projets.
Mais juste une question, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu simpliste de dire le Canada donne X dollars à l'Italie ou au Chine ou quelque chose? Parce qu'on ne donne pas l'argent au gouvernement directement, me semble, mais plutôt aux organismes humanitaires dans ces pays. Donc, ce n'est pas exactement le même genre de discussion, me semble.
Vous avez tout à fait raison et c'est fondamental que vous posiez la question parce que l'aide canadienne est rarement ou pas souvent attribuée au gouvernement. Elle l'est parfois, et quand elle l'est, ben, c'est des ententes qu'on appelle souvent bilatérales. Et là, ce sont des pays qui répondent à des indicateurs de bonne gouvernance, qui répondent à des programmes très, très bien encadrés, si vous voulez. Dans le cas qui nous a interpellés ces dernières semaines avec l'annonce ou la proposition du Parti conservateur, c'était effectivement, je crois, une faussement informer la population que le Canada a donné de l'aide à l'Italie. Le Canada a donné de l'argent à des organisations, notamment à la Croix-Rouge, pour aider une région de l'Italie qui était sous les décombres. Et on peut espérer que si une situation similaire survenait au Canada, bien que les Italiens ou d'autres pays, peu importe qui ils sont, viendraient nous aider. C'est le propre de l'aide. Même chose pour certains pays qu'on considère un peu plus riches, notamment le Liban ou la Jordanie. Ce n'est pas la Jordanie qui reçoit ces sommes-là. C'est des organisations humanitaires, les Nations unies parfois, les ONG ou la Croix-Rouge. Croix-Rouge, pour aider les réfugiés qui arrivent dans les pays qui, eux, sont extrêmement généreux. On parle au Liban, je crois que c'est plus de 50 % de la population, ce sont des réfugiés. Alors, le Canada, donc, va donc octroyer des sommes à des organisations qui vont gérer et aider les populations de réfugiés. Mais c'est sûr qu'après, dans le cahier des statistiques Canada, bien là, on dit, le Canada a envoyé cet argent-là dans un pays qui s'appelle la Jordanie, mais c'est pas les coffres et le budget de la Jordanie qui a reçu cet argent-là, et pas du tout, évidemment.
Revenons à Andrew Scheer, dont on vient de voir des images alors qu'il est en campagne électorale. Il a promis une réduction de 25 % et c'est sa tournure. Il a dit « on va sauver de l'argent pour payer des choses aux Canadiens ». Je ne suis pas sûr qu'il devait y avoir cette juste opposition entre ne pas donner pour mieux recevoir. C'est un petit peu, je ne sais pas, j'entends un message un peu trompien là-dedans. Hein? On va se servir nous-mêmes avant de servir les autres. C'est un peu ça.
Ouais.
Est-ce qu'il était obligé d'aller là, en termes de son électorat, en termes des gens qui sont prêts à voter pour son parti ou qui pourraient songer à voter pour le Parti conservateur? Est-ce qu'il devait aller jusque-là?
Ben, écoutez, personnellement, je vais évidemment avoir une posture un peu critique par rapport à ce genre de proposition politique-là. Le Canada n'est pas généreux. Il fait partie des... On est dans quoi, 14, 15e pays donateur de l'OCDE, donc des pays de l'Occident. Et si on devait diminuer notre aide pour nos propres besoins, bien, on serait encore moins généreux. Donc, on donnerait encore moins nos ressources ou un minimum de nos ressources. Et là, on a vu les pourcentages tout à l'heure. C'est pas beaucoup d'argent. Donc, quand la proposition des conservateurs se fait sur cette base-là, de dire qu'on va garder de l'argent parce que nous, on a des besoins, bien, c'est un discours de politique domestique. À ce moment-là, c'est fort probablement, et là, il faudrait avoir un autre expert de politique canadienne, mais si vous voulez avoir mon avis, ma compréhension, c'est que le gouvernement conservateur a des priorités politiques. Il a besoin d'aller chercher des sous dans le budget et il voit dans ce budget international-là pas d'intérêt pour son électorat. Et évidemment, il va dire, bon, on va couper quelques milliards d'aide à l'international pour financer nos propres besoins.
Est-ce que du populisme à la Trump?
C'est une très bonne question. Et là, on pourra laisser le temps à M. Scheer de mieux se faire connaître pour voir si on en est là. Je vous dirais que je ne sais pas si c'est du populisme. Par contre, ça fait un jeu de mots. C'est un peu trompeur, effectivement, parce que ce n'est pas... c'est une très mauvaise compréhension des interconnexions de la mondialisation que de croire que de ne pas partager une partie de notre richesse à certains pays n'a pas de bénéfice pour nous. Et on l'a vu ces dernières heures, ces derniers jours, quand le gouvernement américain a décidé de retirer ses troupes de la Syrie. Le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? La Turquie a attaqué. Alors, et je ne vous dis pas qu'il faut maintenir des troupes militaires ad vitam aeternam dans un pays. Par contre, le fait de jouer ou de défaire ou de faire des nœuds à l'international a des conséquences directes sur la sécurité mondiale, sur la sécurité régionale, sur l'économie mondiale et éventuellement sur la pression migratoire, les demandes de réfugiés, les gens qui cognent à nos frontières et l'économie mondiale dans laquelle nos compagnies, nos entreprises et notre budget est interrelié. Donc, tout ça est interconnecté et ce n'est pas aussi simple que de dire on va prendre un milliard ou deux par là et on va le mettre dans nos infrastructures et ça ne changera rien. C'est absolument pas vrai. Et le message qu'on envoie en plus, c'est que le Canada se désintéresse, se retire de la scène internationale et que feront nos alliés à ce moment-là? Bien, eux-mêmes probablement le feront aussi. Et sans rentrer dans un mode de populisme, c'est-à-dire dans une analyse du populisme, je voudrais qu'on est certainement dans une perspective protectionniste, repliée sur nous-mêmes et clairement pas en diapason avec ce qui se passe dans le monde dans lequel aujourd'hui il y a entre 20 et 22 millions de population qui migrent actuellement. Et si on retire l'aide, ou qui sont en migration, ou qui sont réfugiés, et si on retire l'aide, bien, ces populations-là vont trouver d'autres moyens pour survivre et éventuellement vont frapper à nos frontières. Donc, c'est très maladroit et c'est une politique électoraliste du day-to-day et non pas une politique dans laquelle le Canada voit qu'il y a des enjeux qui dépassent les simples nids de poules dans les centres-villes de Montréal.
Très bien. Alors, je ne vous demanderai pas votre opinion. Il n'y a pas de problème.
Je crois que c'est clair.
Oui. Monsieur Audet, merci beaucoup de nous avoir amené vers une analyse un petit peu plus nuancée de ce qu'on appelle l'aide internationale.
Ça m'a fait plaisir et bonne émission et bonne suite.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
François Audet, sympathique professeur qu'on aurait aimé avoir à l'université. Mais à la place, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, de l'École des sciences de la gestion.
Bon, on en a eu quelques-uns de bons quand même, là.
Oh, oui, j'en ai eu des très bons. Il est à l'Université du Québec à Montréal pour les gens qui seraient intéressés à suivre les cours. L'UQAM, ben oui, c'est ça, c'est à côté, c'est pas loin d'ici. Oui, moi, j'en ai eu des bons. Vous en avez eu des bons aussi?
Moi, je me souviens d'un prof de chimie. Monsieur Gravel, il rentrait dans le cours et c'était un personnage. Il expliquait et on comprenait. Et c'est ce qui a fait que moi, j'ai fait un bac en sciences, en microbiologie, parce qu'il m'a fait aimer la science. Et un autre professeur à l'université qui lui donnait des cours de génie, il avait étudié au MIT, au Massachusetts, et lui aussi. Mais il faisait des examens où il ne fallait pas seulement cocher une case. Il fallait expliquer notre réponse. Et moi, c'est ce que j'aimais. Mm-hmm. Tout le côté d'apprendre et de montrer qu'on a compris quelque chose.
Et puis, Marc, vous?
Oh, bien sûr, il y a quelques-uns qui sont magnifiques. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins. Mm-hmm. Tu sais, ça dépend de leur investissement dans le sujet, dans la classe, etc., etc. Bon. Puis il y a toujours... Il faut admettre qu'il y a toujours des étudiants qui sont plus aimés que d'autres par le professeur. C'est tout à fait normal. Oui. Fait que c'est drôle de voir qui s'assoit en arrière de la classe et qui s'assoit en avant.
Est-ce que vous vous souvenez des classes où il y avait 200 ou 300 personnes? Moi, j'ai eu ça à Laval. Alors, quand on était derrière, le professeur n'était pas très gros. Et puis, des fois, il y avait des projections sur un grand écran. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui.
En tout cas, vous veniez d'une famille qui était pauvre, évidemment, mais en tout cas, 300 étudiants dans une classe.
Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait des cours obligatoires de sciences.
Amphithéâtre.
Oui, une classe amphithéâtre. Incroyable. Et là, les gens qui viennent de différentes concentrations s'assoyaient dans la classe. Alors là, si déjà on n'est pas intéressé par la matière... Ouais. On ne va pas écouter grand-chose. Et à l'époque, il n'y avait pas les cellulaires. Imaginez aujourd'hui, les trois quarts de la classe seraient avec le cellulaire et n'écouteraient pas le professeur.
Des moyens de s'évader. Fantastique. Ouais. Alors, on va s'évader ensemble, on continue à jouer ensemble, on continue à s'investir dans cette émission.
Let's go.
Action! C'est bien.
Et l'électricité marche encore.
Oui, on n'a pas fait sauter les plombs. Alors, c'est notre deuxième tour. On perd combien de boules, en principe, si on répond incorrectement?
Mais la deuxième fois, il me semble que c'est 30.
C'est 30, exactement.
Okay. Alors, j'ai bien appris ma leçon.
Ouais. Vous avez encore vos 20 boules initiales. Voici 30.
Mais là, on a toutes nos boules, 100.
Oui.
Parce qu'on passe à...
Vous aimez dire ça. Alors, voici.
Oh, que je ne devrais pas répondre à ça.
On roule. Sinon, on va... Hein? Le Canada
se... Marc est découragé.
Je vais vous donner une information. Vous avez peut-être pas ça. 34 milliards de dollars américains en 2018, c'est ce que les États-Unis ont dépensé pour l'aide internationale.
Oh,
ça correspond seulement à
0,17.
Comparé au 0,28 du Canada. Donc, on est plus généreux en termes de notre grosseur économique.
Produit brut.
Vous savez que de ce temps-ci, l'ONU commence à avoir des problèmes, hein?
Okay.
Ils ont un manque d'argent, ils sont en déficit.
Les Nations Unies.
Ils
sont dans un état critique.
Je sais qu'il y a deux personnes qui sont donateurs en Ukraine qui pourraient peut-être aider les Nations Unies au niveau du financement. Un petit peu d'argent. Là.
Vous pensez à qui?
340 000 $ à peu près. Là. Tu n'as pas entendu parler de personne? Non, c'est une autre histoire. À suivre dans les nouvelles, bien sûr. Voici la question, s'il vous plaît. Deuxième question. Le Canada se classe au quel rang des pays donateurs d'aide internationale? On se classe au quel rang? Alors, attention.
Est-ce qu'on ne l'a pas vu tantôt, ça?
Il a dit quelque chose, mais ce n'était peut-être pas tout à fait la bonne réponse.
Okay.
D'accord? Je vous dis ça tout de suite.
Marc,
est-ce qu'on se classe au 8e rang, 10e rang, 13e rang ou 18e rang?
Moi, je opterais, puisque j'avais aussi entendu sa réponse, moi, j'opterais disant que sa réponse n'était pas tout à fait vraie. Mm-hmm. J'ai opté pour le C. 13e.
Pour le C.
Alors, d'un accord commun, parce qu'il me semble que j'ai vu passer l'info cette semaine, 13e.
13e, vous diriez 13e, d'accord. 10e, dit l'équipe technique, qui évidemment surclasse tout le monde parce qu'ils ont la réponse.
Oh, ben c'est pas juste.
On fait apparaître la réponse.
Alors là, ils se pointent tous du
doigt.
Ils ont googlé,
les autres.
Ils ont googlé.
C'est organisé avec le gars des vues, comme on disait à l'époque au Québec. Alors voici la bonne réponse. 10e, ça va apparaître.
Mais là, les techniciens, si vous avez la réponse, il faut qu'on la voie à l'écran.
Ben oui, on a besoin de la preuve.
Ah, OK.
Elle se fait attendre.
Ça s'en vient.
Oui, c'est ça. Mais là, on parlait en termes de milliards total, en termes d'argent.
C'était pas le pourcentage.
C'était pas le pourcentage. Donc, c'est 4,6 milliards de dollars américains. Dixième, la réponse. Le service technique conserve toutes ses boules encore.
On n'était pas trop loin.
Ouais. Puis, il n'y a personne ici qui a conservé ses boules. Hein?
Ben là, ben c'est-à-dire qu'on tombe à, on tombe à 70 tous les deux, parce qu'on en a perdu 30 et on en avait 100 avant.
D'accord. Vous auriez été bonne en mathématiques. Maintenant.
Égal.
Voilà. On va faire apparaître, pour ceux qui s'intéressaient à cette question de l'aide internationale, différents reportages qui accompagnent la diffusion de Tam Tam aujourd'hui sur notre page web. On a affiché ces 5 reportages. Qui a des, pas besoin de lunettes pour voir loin ici? Là? Qui est le champion de l'œil?
L'œil robotisé?
Oui. C'est qui est parlé, là?
Qui est l'homme ou la femme de 6 millions?
Qui a eu une opération pour mieux voir de loin? Oui. C'est ce qu'on veut savoir.
Alors, on va faire apparaître ça, si vous voyez nous aider à lire les titres, au moins les titres. Le reste, bien, nos internautes pourront faire le travail. On a un peu coupé le côté, là. Aide internationale, priver les moins pauvres des pauvres et redonner au Canada. C'est la position des conservateurs.
Ça passe vite.
Voilà. Aide internationale, le Canada affirme de retour, aide de retour, mais les chiffres indiquent une vérité alternative, M. Trump. Et Ottawa se démarque par son leadership. Un autre article qu'on a écrit à Radio-Canada International. Et l'aide internationale canadienne au pouvoir des femmes, mais sans le pouvoir de l'argent. Oh là là.
Oh.
Une conclusion qui est plutôt ennuyeuse. Ennuyeuse parce que si on n'a pas le, on ne va pas jusqu'au bout hein, de ces discours politiques, des fois. Il n'y a pas de commentaire de ma part. C'est simplement une observation qui est basée sur la réalité alternative.
Ça fait une bonne invitée. Hein? Une bonne personne à inviter à un moment donné, ce serait l'ancienne ministre qui détenait les cordons de la bourse au Québec, Monique Jérôme Forget, qui, elle, avait une formation de sociologue et qui savait très bien négocier entre les différents ministres qui se présentaient devant elle pour avoir de l'argent. Et elle, alors, on l'appelait la madame à la bourse, à la sacoche. Et la sacoche, l'argent qu'il y avait dedans, c'est pas n'importe qui l'avait.
Bon. On sait que c'est important d'avoir, de tenir ça en main, la sacoche.
Bon, alors, on passe.
On poursuit, on passe, c'est ça? Êtes-vous au courant de la... Il y a des choses non dites dans cette émission.
Ben, c'est ça.
Hein? C'est extraordinaire. Nous, on est là pendant 30 minutes, mais vous savez, la durée totale est beaucoup plus importante. Alors, écoutez, pour ce qui est de l'aide internationale, le gouvernement actuel libéral a souvent dit « on va faire ça, on va augmenter, parce qu'on est à la recherche de quoi, Maryse? On veut faire des pressions pour obtenir quelque chose quelque part. »
Un siège.
Oui.
À l'ONU.
À l'ONU.
En quelle année? Siège non permanent qu'on aimerait avoir.
C'est...
Très bonne question. Je sais que M. Chrétien était là cette semaine avec un autre personnage politique très important du Canada pour faire des pressions.
On aimerait savoir ça pour 21-22, siège non permanent. Voici, j'ai une petite question de politique internationale, géopolitique internationale. C'est beaucoup plus sérieux. Puis c'est facile. Vous allez voir, vous allez garder vos 50 boules pour le troisième dernier jeu. Moi, je voulais faire des heureux aujourd'hui à l'émission. Évidemment, le service technique ici connaît la réponse, donc on ne les questionne pas. Voici la question. Troisième jeu, on regarde ça ensemble. 5 puissances détiennent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Je n'ai pas dit 7, mais 5. Lequel de ces pays n'y figure pas? Est-ce A, Royaume-Uni, B, France, C, Allemagne et D, Chine?
Oh. Allemagne.
Allemagne, vous pensez, vous?
C'est une très bonne question, j'hésite.
Les leaders de l'Europe? Vous devez faire erreur. Alors, est-ce que c'est... Qui n'a pas un siège au Conseil permanent?
Sécurité.
De sécurité, voilà. Ah. Royaume-Uni, France, Allemagne ou Chine?
Et pourquoi vous dites Allemagne?
Pourquoi?
Demandez-lui pas, là. Ça ne vous fait pas taper sur l'autre, c'est l'examen.
Non.
Oui.
Bon, ben je vais me rallier. Comme ça, si on coule ensemble.
Eh bien, vous avez tous
comme
les deux.
Comme le
on a tous les deux tort.
Vous avez tous les deux raison.
Ah ben, bien sûr.
C'est facile.
C'est parce que... Bravo, Marc.
Ben, bien sûr.
C'est un bel esprit d'équipe.
Voilà. Êtes-vous prêt pour la question?
Ben, tu sais pourquoi?
La
pourquoi?
Question pour les
deux. Ben non, je ne sais pas pourquoi.
Parce que l'Allemagne a perdu la guerre.
Je m'en doutais un peu.
Ah, ben lui, c'est un historien. Ça, Marc, c'est l'historien de service à Radio-Canada International. Posez-lui une question qui a trait à... qui s'est passé pendant la guerre, il a toutes les réponses.
C'est un spécialiste militaire, il est venu un couple de reprises à notre émission, d'ailleurs.
Écoulé!
On l'a fait couler. C'est dommage, mais on a eu du plaisir quand
même. Ben, c'est ça, comme, comme tout le monde.
Notre émission du 11 novembre dernier, à regarder absolument.
Non.
Alors, moi, je réponds juste par oui ou par non, vous connaissez le jeu, c'est... L'image de la semaine.
Ah oui, la fameuse image.
Ben, vous êtes bonne là-dedans aussi.
J'espère que ce ne sera pas le pont Jacques Cartier, peut-être.
Je ne sais pas. Quelle est l'image de la semaine?
Ben, est-ce qu'on a un indice?
Ben, vous, je réponds par où ou par non.
Mais non, mais il nous donne l'image, il ne nous donne pas d'indice.
Ouais.
Bon, Pont-Jacques Cartier, Extinction Rebellion.
Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est l'image de la semaine.
Non, mais il faut que je vous raconte. Le plus drôle, c'est que ce matin, j'étais sur le Pont-Jacques Cartier et là, je me suis dit, est-ce que Stéphane, dans la question de la semaine, va poser cette question-là?
Ah ouais.
Alors, je me suis dit, il faut que je garde ça en tête.
Vous êtes dans ma tête tout le temps. Vous êtes très bonne là-dedans.
Et regarde, sur cette image-là, il n'y a que 3 personnes d'Extinction Rebellion. Les autres sur le pont sont des
gens qui essaient de faire descendre.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que des aider à descendre.
Ça se passe à l'heure de pointe, Montréal mardi ou mercredi?
Mardi matin.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais rendus au travail. D'autres sont arrivés en retard, qui n'ont pas pu faire leur travail.
Vous savez ce qui m'a étonné?
Oui.
La jeune femme qu'on a vue avec son téléphone qui parlait du haut du pont ressemblait à l'ancienne députée libérale Sheila Copps. Le visage, au même âge, c'est la même. Et elle avait l'air très calme, elle parlait. C'était vraiment très intéressant.
Est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut me dire d'où vient ce groupe? C'est un groupe international. Moi, c'est la première fois dont j'entendais parler.
Ça vient d'Angleterre.
Et ça fait
un an que ça existe.
Oui, l'année passée, ça a commencé.
Alors, ils font des coups d'éclat comme ça.
Ouais.
Avez-vous vu, je pense, c'est hier ou ce matin, il y en a un qui a empêché un avion de décoller. Il s'était attaché au-dessus nez d'un avion.
Wow, c'est quelque chose. Hein?
Mais il y avait quelqu'un qui les critiquait ce matin dans Le Devoir et qui disait, ce serait bien qu'ils aillent en Chine ou dans des pays où c'est plus dur et faire le même geste pour voir si on va les traiter de la même façon.
Ah, moi, j'accepte pas de critiques envers la Chine à cette émission, hein, je vous le dis.
Non, mais ce groupe-là a bloqué aussi des ponts et des chemins à Toronto, Edmonton, Vancouver, Victoria.
Cette semaine.
Et à Montréal, ils étaient au centre-ville.
Berlin. Sydney, en Australie. Londres, surtout, parce que ça a commencé à Londres, en Angleterre. C'était mondial dans ce sens.
Oui, bien, l'environnement est mondial maintenant. Ouais. C'est plus drôle.
Mais ils sont critiqués, par exemple, parce qu'ils disent, mais vous empêchez les gens d'aller travailler, vous les frustrez plus qu'attirez.
Oui, c'est sûr.
Fait que,
il y a ça, c'est un problème. Il y a ça, c'est comment manifester en ne dérangeant personne.
Ben, en fait, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on doit être encore dans la manifestation? Mais comment on passe à l'acte? On repousse toujours la personne avec qui on est supposé d'engager le dialogue.
J'ai une très bonne suggestion. Vous demandez à un patron, pas à votre patron, mais à un patron, de vous laisser travailler à la maison. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Ce serait, je pense, le premier geste.
Pour les hôpitaux, ça ne fonctionne pas.
Oui, très bon.
Est-ce que vous... pour les hôpitaux, ça ne fonctionnerait pas.
Non. Mais vous avez le choix entre ça ou demander une augmentation de salaire. Moi, je choisirais l'environnement. Je ferais un sacrifice.
De rester à la maison, de pas rentrer dans l'auto, traverser, etc.
Ouais, l'environnement et moi, c'est...
C'est comme ça.
C'est comme ça. Ben écoutez, c'est le vendredi, c'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça, en famille, parce que c'est ça qu'on est, une famille, à travers, chers confrères.
Très belle émission.
Les sections.
Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors,
c'est venez ici, je vous embrasse. Elle est toute connectée, elle ne pourrait pas le faire.
Je peux pas.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il l'a offert, il savait que je ne pouvais pas le faire.
C'est une blague. Des choses non dites. Maryse, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Marc, à la semaine prochaine, peut-être.
Ah oui, bien.
On verra.
N'importe quand.
Bonne semaine.
Quand ça.
Au revoir.
Boule magique.